Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Alors que la fin de l'année scolaire se profile, après cette année à nouveau bien compliquée pour beaucoup d'enseignants, je vous propose de mettre les projecteurs sur certains d'entre eux, les AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap. Les AESH, ex-AVS pour les familiers du jargon de l'éducation nationale, s'ils ne sont pas au sens strict des enseignants, leur rendent de grands services, ainsi qu'aux élèves, évidemment. Un métier un peu comme les aides-soignants dans les maisons de retraite admirées de tous, et pourtant un métier aux conditions de vie bien difficiles. Car si la loi sur l'inclusion scolaire de 2005, demandant que tous les élèves handicapés soient scolarisés en France, est un beau principe sur le papier, la réalité, elle, n'est pas toujours idyllique, pas encore. L'inclusion scolaire et ses héros, c'est le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, pour nous en parler, Gisèle Perraudy, vous êtes psychologue et coordinatrice de l'école inclusive pour le diocèse, pour l'enseignement catholique de Haute-Garonne et d'Ariège. Bonjour.
Bonjour.
Est avec nous aussi Cyril Lepoint, vous êtes secrétaire général académique SEUNSA de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Voilà, avec les invités, ça serait mieux. Bonjour. On va
bonjour.
Y arriver, voilà. Cécile Verrier, vous êtes AESH, bonjour, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap, bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindra un petit peu plus tard Cyril Douillet, qui est rédacteur en chef de la revue Ombre et Lumière. Voilà, pardon aux auditeurs pour ce léger décalage, on a des techniciens formidables, mais comme tous, ils ont de temps en temps leur petit coup de fatigue. Alors, on va parler de vous, Cécile Verrier, de ce beau métier d'AESH. On va pas commencer tout à fait par vous, on va parler des grèves récentes, et ma première question sera pour vous, Cyril Lepoint. Le 3 juin dernier, donc les AESH un peu partout en France ont donc fait grève, en tout cas une partie d'entre eux. Il y avait un appel de CGT, Éducation, FNEC, FP, Force Ouvrière, FSU, SNACL, bref, ESUD et autres. Pas de votre syndicat. On pouvait lire sur les pancartes des manifestants, AESH au rabais des élèves sacrifiés. Se lever pour moins de 800 euros, c'est insultant. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette grève pour commencer, Cyril Lepoint ?
Oui, bonjour, Monsieur Pella, bonjour à tous vos auditeurs. Il est vrai que dans votre liste que vous avez égrenée, vous ne trouvez pas l'UNSA dans cet appel à la grève. Néanmoins, on partage une grande partie des revendications qui étaient portées, notamment la première, la revendication salariale. Il est vrai que pour le travail qui est effectué au quotidien auprès des élèves en difficulté, on a là une reconnaissance assez ingrate de l'employeur pour des salaires minimums et des temps partiels qui sont souvent imposés. Ça, c'est une revendication qu'on peut partager sur les conditions de travail aussi, puisque on voit que la demande sociale explose.
Alors juste, on y reviendra sur les revendications, mais est-ce que vous pouvez nous dire, donc des grèves, il y a eu celle du 3 juin, il y en a eu d'autres cette année, il y avait du monde, y compris pour l'Académie de Toulouse dans la rue ou pas ?
Alors nous, à notre analyse, la grève n'était peut-être pas l'action la plus pertinente pour faire entendre les revendications des AESH. Parce que, encore une fois, on a des collègues qui sont dans la précarité et qui ont des tout petits salaires. Et un jour de grève, 80 euros, ça s'apaise quand même dans un budget. Donc en termes de visibilité et de reconnaissance de la pénibilité du travail, il y a peut-être d'autres actions qui étaient possibles. Et je crois que les organisations syndicales qui ont appelé à cette modalité d'action étaient ressorties assez déçues de la mobilisation.
Alors, il y a eu donc plusieurs mobilisations cette année. Il y en a eu une en juin, une en février. Il y a eu quoi? Trois appels à la grève, c'est ça, cette année?
Oui, il y en a eu une également au mois de novembre, si je ne me trompe pas, avec peu ou prou les mêmes revendications. C'est pour ça que quand on arrive sur la fin de l'année, au mois de juin, on prépare la prochaine rentrée. Peut-être que c'est pas le mieux de répéter le même type d'action. On a un employeur qui nous écoute, mais qui est limité par le budget qu'il dévoue à l'école inclusive. Donc c'est vrai que cette limite, ce plafond de verre, il faudrait essayer de le faire exploser pour pour pouvoir faire accompagner les élèves en difficulté d'une manière plus qualitative.
Alors, on pouvait lire « Premier de corvée » aussi sur certaines pancartes, alerte sur la situation subie par ses personnels. D'autres syndicats considèrent qu'il y a une forme de mépris de l'éducation nationale, qu'aucune annonce, je cite, n'a été faite sur la reprise des discussions, aucun calendrier de concertation n'a été donné, pouvant laisser croire à des disponibilités du ministère pour tenir certains engagements, ou en tout cas en prendre des nouveaux. On va prendre le temps, peut-être Cécile Verrier, puisque vous êtes avec nous au début de cette émission, pour essayer de comprendre ce qu'est votre métier. Donc je disais admiré de beaucoup. Donc AESH, c'est donc le nouveau nom pour les ex-AVS. Ça veut donc dire, je le rappelle, accompagnant d'élèves en situation de handicap. Vous, vous n'avez pas manifesté le 3 juin dernier, entre autres pour des raisons financières, vous m'avez dit, parce ça faisait, quand on fait grève, on n'est pas payé. À quoi ressemble votre métier dans la classe? Qu'est-ce que vous faites, Cécile Verrier?
Bien écoutez, moi je suis en présence d'un enfant en situation de handicap. Alors ça peut être un enfant autiste, ça peut être un enfant qui a des troubles dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, ou alors un enfant hyperactif, ou eh bien des enfants avec un handicap moteur. Moi pour l'instant je n'ai que j'ai un enfant autiste et un enfant avec une très très grosse dyslexie. Donc mon rôle c'est de les accompagner, d'être près d'eux pour les soutenir, les encourager, les rassurer aussi, parfois les aider à s'organiser dans le travail, parce que pour certains enfants incartables c'est compliqué, favoriser l'autonomie aussi, apprendre à gérer ses émotions, parce que certains enfants peuvent exploser par angoisse, par incertitude, et puis l'accompagnement de la vie quotidienne. Donc c'est aussi une relation avec les parents, avec l'enseignant. C'est vraiment un travail, je dirais pas d'équipe, parce que les parents ne font pas partie d'une équipe réellement, mais il y a quand même un objectif à faire en sorte que l'enfant progresse dans sa vie scolaire.
Cécile Verrier, vous êtes donc du soir au matin dans la classe avec l'élève, ou en fait vous êtes obligé de vous dispatcher entre plusieurs classes? Alors, vous êtes juste deux heures par jour avec l'élève?
Non, moi j'ai pour l'instant cette année j'ai eu deux enfants, un en CM2 et un en CP. Donc j'ai effectivement je me promène d'une matinée à une après-midi d'une classe à l'autre. Parfois je peux rester qu'une heure avec un enfant en fonction des plannings des deux enfants. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il faut à chaque fois se remettre dans le bain. L'enfant, il faut qu'il se réadapte à vous aussi. Donc c'est pas toujours évident. Voilà.
Est-ce que vous avez les mêmes élèves sur plusieurs années?
Ça, oui. Le petit autiste que j'ai, ça fait 2 ans. J'ai eu un enfant pendant 4 ans. Oui, ça arrive. Alors après, le ministère estime qu'il faut pas trop s'habituer à l'enfant et l'enfant ne doit pas trop s'habituer à vous. Donc en général, c'est 2, maxi 3. Bon, moi j'ai tout au début de ma carrière entre guillemets, j'ai eu un enfant pendant 4 ans. Voilà, à la demande des parents d'ailleurs.
Vous, ça fait donc 10 ans que vous faites ce métier. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez, vous avez accepté, je vous en remercie, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à partager ce genre de choses. Oui. Pouvez nous dire combien d'heures vous travaillez par semaine, combien vous êtes payé, comment vous faites pour vous en sortir?
Ah bah alors, j'ai un contrat de 24 heures. Au bout de 6 ans, j'ai réussi par la pérennité à avoir un CDI. Je touche 774 € net par mois. Donc moi, je suis une femme seule, donc j'ai dû rebondir sur d'autres casquettes. Je suis à la sortie de l'école référente d'un dispositif d'aide aux devoirs, ce qu'on appelle le CLAS, au sein d'une commune. Je finis à 18h30, voire 19h. Et le mercredi après-midi et le samedi matin, je donne des cours particuliers.
Alors, est-ce que vous êtes équivalent SMIC horaire pour le nombre d'heures? Première question. Et la deuxième, c'est pourquoi vous n'êtes pas à temps plein?
Parce que le temps plein n'existe plus aujourd'hui pour les AESH, mis à part sur les collèges, où effectivement on peut avoir 3 enfants. Et dans ce cas-là, la possibilité existe. Moi, quand j'ai demandé un temps plein, on m'a dit que c'était à l'époque, je vous parle, je ne pouvais pas aller au-delà de 24 heures.
Alors, vous avez dit donc que vous avez obtenu votre CDI donc récemment. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Au début, vous étiez en contrat aidé, après vous avez passé en CDD, c'est ça?
C'est ça. 2 ans en contrat aidé, ensuite 2 fois 3 ans en CDD, Et au bout de ces 8 années, je suis passée en CDI il y a 2 ans, en fait. Et ça fait 10 ans que je travaille en tant qu'AESH.
Alors, ce qui vous est arrivé à vous, c'est la règle, en fait, ce parcours ou pas? Pour tout le monde?
Ah oui, je pense. Enfin, moi, je suis plus trop dans le coup parce que je suis pas loin de la retraite, mais oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le chemin qu'on doit suivre en tant qu'AESH. Oui, certainement.
Cécile Verrier, il y a une autre question, évidemment, qui trotte dans la tête, même si un certain nombre de personnes ont la réponse, mais ça paraît tellement fou qu'on vous la repose, la question. Est-ce que vous avez été accompagnée pour vous former aux différents handicaps que vous essayez d'accompagner?
Oui, alors, tout au début, sur les 2 années de contrat aidé, effectivement, on a une formation. À l'époque, moi, j'avais 80 heures. Aujourd'hui, je sais que c'est réduit à 60. Ceci dit, pendant cette formation, il y a effectivement des mises en situation avec les futurs AESH. Bon, alors après, cette formation, elle est théorique. Dans la vie de classe, les situations sont parfois bien différentes et on n'a pas forcément les outils qu'on a pu nous donner dans le cadre des formations. Je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on vous inculque et ce qu'on vit au quotidien.
Donc vous voulez dire qu'il y a une formation au début, mais quoi, elle est trop rapide ou trop théorique, c'est ça?
Elle est assez théorique, et moi je pense que avant de jeter les AESH dans la gueule du loup, entre guillemets, je parle pas de l'enfant, mais dans le contexte, je pense que ces AESH devraient être en période d'observation ou faire un mini stage en inclusion justement dans les classes pour avoir une idée de ce qui peut se poser comme problématique.
Alors, sur une autre antenne, c'est l'antenne de RCF nationale, on pouvait entendre une chronique de Philippe de la Chapelle, qui est directeur de l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées, qui sera représenté par Cyril Douillet tout à l'heure, rédacteur en chef d'Ombre et Lumière. Il disait aussi la chose suivante, il disait que c'est un métier difficile parce qu'on n'arrive pas toujours à trouver sa place, on va dire, dans l'équipe éducative. Et il posait cette question, comment développer une estime de soi professionnelle quand on ne vous intègre pas aux équipes de suivi de scolarité des enfants? Ça paraît fou. C'est votre cas?
Non, pas du tout. Moi, depuis que j'exerce, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec les enseignants. Après, je pense qu'il y a une question de personnalité aussi, peut-être. Il faut être discrète. Ne pas prendre la place de l'enseignant non plus. Ne pas penser ou faire comprendre qu'on sait mieux que l'enseignant. Même l'enseignant est perdu, parfois. Il n'a pas toujours les solutions. Moi, je pense qu'il faut vraiment être dans un esprit d'équipe. Ne pas se situer l'un par rapport à l'autre dans son rapport professionnel. Enfin, voilà. En ce qui me concerne, enfin, j'ai du mal à parler de ça parce que moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau.
Merci Cécile Verrier. On peut dire aussi donc il y avait 118 000 donc AESH, même si ça s'appelait autrement avant, et il y en a aujourd'hui plus de 360 000. Gisèle Perraudy, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Est-ce que vous feriez vôtre, on va dire les ce qu'on pouvait lire dans la presse sur les pancartes des manifestants AESH au rabais, élèves sacrifiés. Je cherche d'autres citations. Nous sommes les pions invisibles de l'éducation nationale et 800 euros, ce n'est pas un salaire décent.
D'abord, oui, je soutiens vraiment les AESH. Je voudrais le situer dans la logique de l'accessibilité à la vie sociale des personnes en situation de handicap et notamment des enfants dans leur droit à l'école.
Alors ça, on y reviendra, mais ma question c'était, est-ce que vous trouvez que c'est scandaleux?
Bah, je trouve que effectivement c'est un métier difficile et qui n'est, enfin, d'abord je n'arrive même pas à appeler ça un métier puisque il n'y a pas réellement une reconnaissance de ce statut. C'est souvent une compensation qui arrive comme la seule variable d'ajustement et qui n'a pas une reconnaissance ni en termes de formation ni en termes d'accompagnement. On tente de le faire par des formations en interne dans l'enseignement catholique, on tente de le faire dans les équipes en faisant ce que disait Cécile Verrier, faire des personnes qui sont réellement en équipe, en partenariat avec les enseignants. Mais c'est vrai que la loi a été injonctive il y a 16 ans, il le fallait.
La loi sur le handicap
voilà. De 2005, sur l'inclusion.
On y reviendra,
Mais elle manque un peu de moyens, elle est encore jeune et elle grandit petit à petit.
On va faire une première pause musicale. Cyril Louvain, peut-être la réaction du syndicaliste. Vous l'avez dit au début. Quels sont les termes utilisés par UNSA? C'est quoi? C'est scandaleux? C'est problématique? Quels sont un peu vos slogans sur le sujet?
Bah, clairement, on a là un problème à résoudre. Scandaleux, ça pourrait être le bon adjectif. Néanmoins, pour choisir ces mots quand on est face au ministère, il faut être percutant, il faut aussi être dans la mesure. Je crois que la première avancée, ça serait de permettre à chaque AESH qui le souhaite d'être à temps plein. Madame Verrier en a parlé, ce qui forcément augmenterait les salaires.
Allez, on va faire une première pause, on va tous vous retrouver et puis on va essayer d'améliorer la connexion avec vous, Cyril Lepoint. Merci en tout cas à Cécile Verrier de vous être rendue disponible. L'inclusion scolaire et ses héros, tel est le titre de l'émission Vivante Église et son thème de ce matin. Pour rappel, autour du plateau, Gisèle Perraudy, psychologue, coordinatrice de l'école inclusive pour l'enseignement catholique de la Haute-Garonne et de l'Ariège, Cyril Lepoint, secrétaire général académique SO UNSA de Toulouse, et voilà, je ne sais pas qui on a perdu, on en a perdu un, et Cyril Douillet, rédacteur en chef de la revue Ombre et Lumière. Bonjour Cyril Douillet. Voilà, vous vous a pas perdu, parlez bien près du poste. Il était avec nous au début de l'émission, Cécile Verrier, qui est AESH, donc pour rappel, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Alors c'est l'occasion de reparler de la loi sur l'inclusion scolaire, et même si on fait un petit peu d'archéologie, quoique 16 ans c'est pas de l'archéologie, de la loi de 2005 pour l'égalité des chances et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cyril Douillet, vous êtes bien au fait de ces sujets à Ombre et Lumière, la revue donc de l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées. Si vous deviez nous présenter cette loi qui, on va dire, à l'origine de l'existence de ce métier dont on parle spécialement ce matin, qu'est-ce qu'elle est venue révolutionner? Vous pouvez nous faire un petit rafraîchissement?
Oui, alors on peut dire quand même que la présence de l'enfant handicapé à l'école ne date pas de 2005. Il y avait déjà des efforts qui étaient faits dans différentes directions, mais souvent à l'initiative des établissements. D'ailleurs, je tiens à rappeler que l'école catholique a été parfois en pointe, hein, notamment sur l'accueil d'enfants autistes dans des classes spécialisées, les classes Soleil par exemple à Saint-Dominique à Neuilly. Donc ça, c'était déjà au 20e siècle. En 2005, quand même, ça a été un moment charnière, on va dire, puisque cette loi très très complète, hein, et très ambitieuse pour le monde du handicap, a dans sa partie sur l'inclusion scolaire stipulé que tout enfant avait le droit d'être scolarisé dans l'école publique la plus proche de son domicile. Voilà, ce qui fait que ça a vraiment révolutionné un petit peu l'approche qu'on avait, où beaucoup d'enfants allaient dans des établissements spécialisés avec une approche médico-sociale. Désormais, ils avaient ce droit, ils pouvaient s'appuyer sur ce droit pour revendiquer une place dans tout établissement à proximité de chez eux.
Si j'ai bien compris, c'est aussi une forme de, entre guillemets, de révolution quant à la manière d'envisager le handicap. J'ai cru comprendre que c'était une approche, on va dire, sociale du handicap, laissant entendre que c'était l'environnement aussi de s'adapter, et plus seulement aux personnes handicapées. Est-ce que j'ai bien compris la logique de fond?
Tout à fait. C'est-à-dire que il est apparu que on ne pouvait pas comme ça placer les enfants dans des lieux à part, dans des établissements spécialisés, loin de leurs congénères, mais qui faisaient partie du lot commun, et qui avaient le droit d'être au milieu des autres et d'avoir accès à une scolarisation comme tout le monde. Alors la difficulté, en effet, c'est pas tellement dans l'intention de la loi qui est belle, hein. Il y a un vrai volontarisme dans cette loi. La difficulté, c'est les moyens engagés pour ensuite mettre en place ce droit qui soit effectif. Et là, on voit que c'est plus compliqué. Alors moi, je vois plusieurs explications à cette difficulté. C'est que, eh bien, il me semble que l'institution scolaire en France est très centralisée, elle est très normée, et donc la logique de l'inclusion scolaire est au contraire une logique assez personnalisée, finalement, assez souple. Et c'est un peu la confrontation de ces deux logiques qu'on voit à l'œuvre depuis 16 ans, quoi. C'est-à-dire que malgré le volontarisme des ministres successifs, des moyens toujours plus grands, en tout cas financiers alloués, on voit qu'il reste encore des un peu de rouille dans le rouage, quoi. On n'est pas encore tout à fait arrivé à un droit effectif pour tous les enfants.
Alors on y reviendra. Dans votre revue Ombre et Lumière, vous aviez vous avez réalisé de nombreux articles là-dessus. Vous m'avez fait suivre un dossier dans lequel il y a une interview donc de la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui prolonge votre propos. L'école en France est un rouleau compresseur très normatif, laissant entendre qu'intégrer des personnes handicapées demande de revoir l'organisation presque du système scolaire. Quand on dit loi inclusive, Gisèle Perraudy, si j'ai bien compris, en fait, c'est on va dire la suite de cette loi, c'est la loi de refondation de l'école de 2013 qui a on va dire mis un coup de tampon, c'est ça, c'est comme le prolongement de la loi de 2005, la loi l'inclusion scolaire, comme on dit.
L'inclusion scolaire, c'est une logique dans laquelle l'enfant a droit à une scolarisation, ce qui ne veut pas dire qu'il soit scolarisé, que sa scolarisation va être adaptée à ses besoins. C'est-à-dire que c'est à l'école à s'adapter à ses besoins et lui donner les moyens, bon, avec ce qui est possible, des compensations, de l'accessibilité, pour qu'il puisse mener une scolarité à sa mesure et de droit.
Alors ça veut dire que les établissements spécialisés, enfin, n'existent plus. Il y a quand même encore toujours des, on va dire, des classes.
Alors il y a moins d'enfants dans les écoles,
les fameuses Ulysse ou Clis.
Alors Ulysse, Clis, ça existe. Ce ne sont pas des établissements spécialisés, ce sont des dispositifs au sein des établissements. Par contre, les centres médico-sociaux, Il y en a moins, effectivement, puisque les enfants sont plus amenés à être scolarisés. Et une des avancées qui devrait être traitée, c'est que justement l'engagement des centres médico-sociaux, du médico-social, pour accompagner les enfants dans leur scolarité. Parce que quand même, les enseignants, effectivement, dans un premier temps, ont été déstabilisés par cette loi. Puis je trouve qu'en très peu de temps, 16 ans c'est très court, beaucoup ont cherché, creusé des pistes pour que ce soit possible, pour que l'enfant trouve une place. Mais très souvent, l'AESH précédente disait ils sont perdus aussi, comme les AESH, parce qu'effectivement, leur formation n'a pas été à la mesure des besoins qu'ils ont pour accueillir ces enfants.
Parce que les enseignants sont formés, eux ?
Pas très peu, finalement. Enfin, ils sont formés un petit peu dans leur formation initiale et un petit peu dans leur formation continue, mais pas forcément à la mesure, parfois, de ce qui serait nécessaire.
C'est-à-dire que vous êtes enseignant, vous allez accueillir un enfant autiste, vous faites pas une rentrée 3 jours avant avec une formation là-dessus ?
Non.
Vous êtes chargé quoi, de trouver un livre pendant l'été et puis d'apprendre à...
C'est
à
un peu ça. Je pense que c'est après les associations sont très engagées et soutiennent les parents et soutiennent justement les scolarisations. Ce sont des personnes ressources pour les enseignants, le personnel du soin, c'est-à-dire qu'il y a toute une logique différente. Avant, il y avait le médical d'un côté et l'école de l'autre côté. Aujourd'hui, le médical peut être engagé dans le scolaire pour faciliter, trouver les besoins et faciliter cette scolarisation. Donc c'est l'AESH le disait, c'est la logique d'un partenariat, mais à laquelle l'école n'était pas vraiment préparée.
Donc le partenariat là, c'est le triptyque éducation nationale, famille, médico-sociale, c'est ça ?
Voilà, voilà. Et le partenariat aussi de l'ASH et de l'enseignant, le partenariat de l'école et de la famille, tout doit fonctionner en partenariat et de l'élève aussi, on l'oublie souvent d'ailleurs, lui-même doit être concerné à être acteur de son parcours. Et cette logique de partenariat n'était pas réellement une logique. Les classes sont ouvertes aujourd'hui. Il y a parfois 3 ESH dans une classe avec l'enseignant. L'enseignant est amené à avoir des réunions avec les parents, avec les partenaires de soins. C'est une autre logique de partenariat. L'enseignant était un peu seul avant et maître dans sa classe.
Cyril Lepoing, je vous oublie pas, j'avais une autre question pour Cyril Douillet avant, mais promis, je vous donne la parole après. J'ai noté, toujours dans votre dossier, puis je l'avais trouvé par ailleurs dans la presse, qu'en 2017, c'était plus de 340 000 enfants en situation de handicap qui étaient scolarisés. Aujourd'hui, on serait, je crois, à plus de 400 000. Vous, Cyril Douillet, qui est plus au fait probablement que moi en tout cas, de ces chiffres, ça représente quoi, enfin combien de, quelle proportion d'enfants handicapés restent encore sur le carreau, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est très difficile d'avoir des chiffres un peu précis sur ce sujet, sur le thème du handicap. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une augmentation nette depuis plusieurs années. Chaque année, à la rentrée, il y a de plus en plus d'enfants handicapés qui rentrent à l'école. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les enfants touchés par un handicap sont aussi de plus en plus nombreux, parce qu'on inclut maintenant dans le handicap un certain nombre de troubles, de difficultés.
Par exemple, troubles cognitifs, ça en fait partie.
Troubles du comportement, ce qu'on appelle TDAH. Donc on est dans une pluralité de difficultés qui sont rassemblées parfois sous l'étiquette handicap. Donc les besoins augmentent en fait aussi assez fortement. Et parfois cette diversité aussi des handicaps et des problématiques rend complexe l'inclusion scolaire. Je pense, dans une ULIS, par exemple, où on aurait à la fois des enfants avec un handicap, on va dire, classique, comme la trisomie 21, et d'autres enfants avec troubles du comportement, qui n'arrivent pas, en fait, à suivre une scolarité dans une classe, et donc sont accueillis en ULIS. En fait, cette cohabitation est parfois compliquée. Elle est compliquée à gérer pour l'enseignant, mais pour l'enfant porteur d'un handicap, parfois, elle est difficile aussi à vivre. Donc, c'est un peu... Au niveau chiffre, en fait, c'est assez compliqué. Il y a à la fois progression du chiffre d'enfants accueillis, ça c'est certain. Après, il faut aussi voir combien d'heures ils sont accueillis chacun. Hein. C'est pas toujours satisfaisant pour les familles. Et puis, il y a aussi cette augmentation des problématiques en fait au sein de l'école.
Cyril Lepoing, on a compris que vous, comme syndicaliste pour l'UNSA et comme d'autres, vous plaidez pour plus de moyens, et peut-être vous nous le redirez à la fin, mais quel est le regard un peu, on va dire, global que pose l'UNSA ou le retour de terrain sur cette loi, sur l'inclusion scolaire ?
La loi sur l'inclusion scolaire a eu cette vertu de désinhiber les parents d'enfants handicapés à demander de l'aide. Moi, je peux vous donner un chiffre pour l'Académie de Toulouse. En 2010, il y avait environ 2500 élèves accompagnés dans les écoles et les collèges. Aujourd'hui, en 2021, il y en a environ 20 000. Donc, on voit bien qu'il y a une explosion de la demande sociale. Cette demande, elle doit être accompagnée. Pour l'instant, c'est sur plusieurs aspects, c'est pas satisfaisant. Vous donniez tout à l'heure l'exemple de l'accueil d'un petit élève autiste dans une classe. Moi, ce que je peux vous dire, pour le second degré, les enseignants découvrent le jour de la rentrée le type de handicap de l'élève accueilli, et parfois même l'élève accueilli tout court. Donc en termes de préparation, de formation, il n'y a pas le loisir de lire un livre pendant l'été, je vous l'assure. Donc on est sur des réactions sur le tas, et je crois que quand il y a un ou une AESH qui arrive en classe pour accompagner ce type d'élève, en général, c'est une bonne nouvelle pour les enseignants.
Alors, Cyril Lepoing, on pouvait lire dans la presse aussi que le gouvernement aurait annoncé, je crois que c'était à la rentrée 2019, qu'ils allaient enfin prendre les choses peut-être, on va dire, plus à bras-le-corps, si j'ai bien compris, avec la création, entre autres, des PIAL. Donc, c'est des pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Si j'ai bien compris, c'est une forme de coordination locale, en fait, des AESH. Pour les comment dire les mieux les accompagner, probablement mieux coordonner leur travail et puis ouais. Faire en sorte qu'elles soient au bon endroit au bon moment et j'ai lu dans tous les articles de presse que j'ai lu que les PIAL c'était en fait catastrophique et que le résultat était plutôt à l'inverse du but recherché. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est de ces PIAL?
Alors pour l'UNSA, c'est vrai que nous on est plutôt favorable à la création des PIAL, hein. Elles peuvent résoudre une partie du problème de gestion des AESH. Les campagnes de recrutement sont massives. Par exemple, en Haute-Garonne, quand on organise une campagne de recrutement, c'est 300 personnes d'un coup au mois d'octobre dernier qui sont recrutées sur dossier puis entretien. Donc bien sûr, en termes de gestion des ressources humaines, c'est assez conséquent.
Mais alors quel est le défaut en fait? C'était pour certains une forme de précarisation encore plus importante, le résultat de ces PIAL.
Le défaut principal des PIAL, c'est qui est-ce qu'on met à la tête de cette coordination sans moyens supplémentaires. On a des chefs d'établissement qui tiennent pas forcément, ou des directeurs d'école, hein, qui ne tiennent pas forcément à intervenir dans la gestion des emplois du temps, des AESH. On a des coordonnateurs dont les indemnités sont assez faibles. Je crois qu'on peut parler de 50 à 60 euros mensuels pour faire cette gestion. On a l'impression parfois que les AESH sont livrés à eux-mêmes. Ils doivent faire un emploi du temps sur l'accompagnement des élèves au jour le jour, selon les matières dans lesquelles les élèves sont les plus en difficulté. Et ce défaut-là, c'est de ne pas avoir une construction claire dans l'organigramme de PIAL. Maintenant, c'est quand même une bonne idée d'avoir une tête de réseau, souvent un collège, qui pourrait prendre en charge les écoles environnantes et faire la continuité avec le lycée.
Gisèle Perrodi, avant qu'on fasse une deuxième pause et puis à la fin de cette émission, je vous demanderai à chacun vos préconisations, si possible une, pour qu'on ressorte avec des pistes pour essayer d'espérer que cette loi sur l'inclusion scolaire, voilà, est vraiment un bel horizon. On pouvait lire aussi dans le dossier donc de d'Ombre et Lumière, cette revue donc de l'Office chrétien des personnes handicapées, cette remarque d'une mère de famille, je crois, si je ne me trompe pas, qui laissait entendre qu'en fait c'est souvent des personnes elles-mêmes fragilisées parce qu'elles sont au chômage ou alors parce qu'elles ont des difficultés personnelles assez importantes qui sont AESH. Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain et la personne en l'occurrence se demandait si dans le fond c'était le plus opportun?
Je pense qu'il y a autant de personnes que possible. Il se trouve que quand les pianos ont été, quand les postes ont été créés au départ, enfin il y a quelques temps, c'était sur des contrats aidés. Effectivement, le contrat aidé, sa fonction était justement assister des personnes qui étaient en situation de précarité. Ça n'est plus trop aujourd'hui, je trouve, la réalité, parce que ces personnes-là d'abord se sont formées, ont eu une expertise en étant depuis certaines années sur le terrain. Je trouve que c'est une réalité qui est moins présente. Je voulais préciser quand même, quand on parle des AESH, il y a des AESH mutualisés et individualisés. Et les mutualisés doivent intervenir auprès de plusieurs élèves, donc jusqu'à 4 ou 5 élèves. C'est aussi la difficulté. On parlait d'emploi du temps par rapport à l'organisation. Comment peuvent-ils se coordonner pour intervenir auprès de ces élèves? À quel moment? Tout le monde veut qu'ils interviennent le matin parce que les apprentissages sont mieux le matin, sont plus performants. C'est très complexe en termes d'organisation.
Voilà, et on peut imaginer que c'est complexe aussi, du coup, de trouver le temps à côté de travailler pour compléter ce salaire. Les AESH, pour rappel, donc c'est 10% des effectifs de l'éducation nationale aujourd'hui. Mmh. C'est en tout cas ce qu'on pouvait lire dans la presse. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour vos dernières préconisations pour essayer de regarder l'horizon.
À Sévrac-le-Château, 102.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'inclusion scolaire et ses héros, c'est le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Vous avez remarqué, c'est un titre, on va dire, relativement engagé. Mais je me disais qu'il fallait leur tirer un coup de chapeau avant les vacances, que c'était bienvenu autour du plateau. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, Gisèle Perraudy, psychologue, coordinatrice de l'école inclusive pour l'enseignement catholique de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Cyril Lepoint, secrétaire général général académique UNSA de Toulouse, était avec nous au début de l'émission. Cécile Verrier, AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap, et Cyril Douillet est avec nous, rédacteur en chef de la rue Ombre et Lumière, lié à l'Office chrétien des personnes handicapées. Alors, pour cette loi donc de 2005, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, faisant donc de la scolarisation des enfants handicapés, porteurs d'un handicap, pardon, une obligation, et puis cette loi dite inclusive après, c'est le nouveau nom qu'on lui a trouvé. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une grande et belle loi, même si elle est bien difficile à mettre en place. Alors, vos préconisations, on va commencer avec vous, Cyril Lepoint, parce qu'on a commencé par les grèves et les manifestations des AESH. Du côté de l'UNSA, si vous aviez deux préconisations ou deux priorités, quelles seraient-elles?
Alors, je vais pas vous surprendre. D'abord, j'insisterai sur la dimension salariale, parce que une des rares perspectives positives du Grenelle de l'éducation est l'élaboration d'une grille de salaire avec une progression possible. Je crois que ça, c'est très important. On a parlé tout à l'heure des temps partiels imposés et donc de l'impossibilité à être à temps complet pour l'instant. La perspective d'avoir une augmentation de salaire et donc l'élaboration d'une grille, je crois que ça peut stabiliser les équipes et ça peut engager peut-être certains collègues à ESH à pouvoir se projeter dans le métier.
C'est-à-dire que vous êtes relativement raisonnable ou réaliste sur ce sujet, vous ne demandez pas que les embauches désormais soient des équivalents temps plein?
Nous, on demande, on continue de demander le passage des temps partiels au temps complet. Néanmoins, il y a des obstacles administratifs. Le premier, c'est que les notifications MDPH notent des accompagnements à 24 heures et non pas à 35 heures. Donc peut-être qu'il faudrait que les services de l'État...
On vous a perdu, voilà. Mais on va vous retrouver, on va vous appeler. C'est les aléas du direct. Allez, Gisèle Perraudier, puis on redonnera la parole à Cyril Lepoint. En tout cas, on peut dire, je peux déjà dire que son deuxième point, c'était faire en sorte aussi qu'il y ait plus de moyens pour que les écoles soient accueillies. Et puis, des ouvertures de structures pour les ULIS, SECPA, IME et ITEP, tous ces lieux, on va dire, dédiés à ces enfants, quand ils sont pas directement, on va dire, dans l'école dite classique. Alors vous, Gisèle Perraudier, vous vouliez mettre un coup de projecteur sur quoi? Quelles seraient vos priorités? Quelle montée de terrain, entre guillemets, vous avez envie de nous donner?
Alors, je partage bien évidemment les priorités qui ont été citées et fortement, mais je rajouterai vivre comme une chance cette école de la vulnérabilité, de l'altérité, une école moins normée et moins performante, c'est peut-être une chance aussi pour nos enfants.
C'est-à-dire, vous pouvez mettre en perspective ce que vous venez de dire,
rencontrer la différence, rencontrer l'altérité au quotidien, je crois que ça transforme les cœurs, ça transforme les représentations. Et ça fait des citoyens différents.
Donc il faut essayer d'infuser en fait quelque part une culture, c'est ça, de la différence,
oui, je crois,
et de la vulnérabilité.
On le voit maintenant quand même, on le voit dans des émissions, on le voit dans la société d'une manière générale. Et je crois que l'école doit le saisir comme une chance et non comme une contrainte.
Votre autre préconisation, quelle serait-elle?
Alors, priorité? Ça, c'est par rapport au parcours de vie de l'élève. C'est engager les entreprises dans la logique de parcours, parce que on a des élèves qui font à force de compatibilité de leurs parents, de leurs enseignants, de leurs AESH, un parcours scolaire qu'on peut dire réussi, en tout cas un parcours scolaire, et qui est souvent la conclusion de leur parcours, parce que après les parents ne trouvent pas une accessibilité vers l'emploi. Et je vois des parents qui se retrouvent vraiment en difficulté avec leurs jeunes de 20 ans, 22 ans, qui se retrouvent à la maison et sans beaucoup de perspectives. Donc les entreprises et l'inclusion doivent s'engager.
Voilà, et pas seulement à la sortie, on imagine, mais du coup, il faut peut-être aussi adapter un peu les études en lycée ou les professionnaliser aussi, c'est ça?
Oui, puis les entreprises peuvent aussi adapter les choses, accueillir la vulnérabilité dans l'entreprise qui amènera une chance, tout comme elle amène à l'école. Et on voit des entreprises qui accueillent des jeunes et qui disent des jeunes un peu différents et qui disent que ça leur apporte un plus de vie, de socialisation, dans l'équipe. Et je pense que les entreprises, le monde salarial doit s'engager là-dedans.
Cyril Lepoint, on vous a retrouvé. Votre deuxième priorité, allez-y.
Merci. Excusez-moi pour cette coupure. Dans le Lauragais, on a un réseau approximatif. Vous avez entendu, je crois, la revendication salariale. Je crois que la deuxième priorité, ça serait que l'État s'adapte à l'explosion de ses demandes en ajustant le volume de structures possibles. On voit que les classes ULIS qui accueillent donc ces élèves handicapés sont toutes pleines. On aurait également un sujet sur l'hôpital de jour, sur les ITEP, sur la grande difficulté scolaire avec les classes SECPA. Je crois que la priorité, si la priorité de l'État est de faire de l'école inclusive une école pour tous, ça doit aussi se reconnaître sur le nombre de structures possibles et un maillage du territoire qui doit être maximal et pas uniquement centré sur les grandes agglomérations, parce que quand on habite dans un territoire rural,
comme dans le Lauragais, n'est-ce pas,
voilà, par exemple, le manque de structures est assez pesant pour les familles.
Voilà. Et ben merci Cyril Douillet. Peut-être pour finir, vos préconisations à vous, Ombre et Lumière, quelles seraient-elles?
Alors déjà, je voudrais juste dire que j'abonde dans le sens de Madame Perraudy. Hein, l'inclusion scolaire, c'est une chance, vraiment. Et surtout, c'est la clé de l'inclusion dans la société. Hein, des enfants qui côtoient des enfants différents dès le plus jeune âge, c'est la clé pour que plus tard, ils soient accueillants dans l'entreprise, même dans leur famille. Voilà, donc c'est vraiment une clé. J'en ai pour témoin, en fait, j'ai fait un reportage récemment dans une école en région parisienne qui accueillait en inclusion une demi-journée par semaine des enfants polyhandicapés. C'est encore assez rare en France. Et en fait, bon, l'inclusion était assez limitée encore, mais au moment de la récréation, les enfants avec un polyhandicap allaient dans la cour avec les autres. Et ce que j'ai observé, c'est que des enfants venaient tout de suite rejoindre, notamment une de ces petites filles qui était en fauteuil roulant, et lui faisaient faire le tour de la cour 4-5 fois, et avec une joie incroyable, quoi. Donc il se passe quelque chose qu'il faut rappeler pour montrer le sens de tout ça, et qu'on n'est pas uniquement sur des contraintes. Voilà, je suis pas un technicien de l'inclusion, donc je vais pas forcément avoir des préconisations très originales, mais j'emprunterai à Sylviane Corbion, qui est une sociologue et une enseignante spécialisée qui vient de publier un livre sur l'école inclusive. J'emprunterai sa préconisation qui est de renforcer la formation initiale des enseignants. C'est vraiment la base. Il faut que dans ce temps de formation, l'enseignant soit déjà au fait du handicap, qu'il ait pu éventuellement déjà rencontrer des classes spécialisées, etc. Et puis aussi, peut-être que lors de la formation continue, j'emprunte aussi à Sylviane Corbion cette préconisation, que les formateurs puissent venir sur le lieu, dans les écoles, et que ce soit pas dans l'autre sens tout le temps, de façon à être davantage collé au terrain, en fait. Il s'agit pas d'être théorique, il s'agit aussi d'avoir des conseils et une formation sur place, au plus près de la réalité des enfants et de ces classes.
Allez, une dernière pour vous, pour Ombre et Lumière, peut-être pour vous faire un petit coup de pub à cette revue pas assez connue. Vous aviez, semble-t-il, une autre préconisation, en tout cas vous m'en aviez partagé une, c'est aussi vraiment se donner les moyens que ce triptyque famille AESH enseignant, donc monde médico-social quelque part, enseignant et famille, se connaissent, dialoguent de plus en plus.
Tout à fait, je crois qu'il faut mettre de l'huile dans les rouages de l'inclusion, et que faire parler ensemble ces différents acteurs que sont les familles, les AESH et les enseignants, c'est essentiel. Alors ça existe déjà, il y a des moments dans l'année où il y a un point qui est fait entre différents acteurs, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus fluide. Et puis j'ai envie de dire aussi que chacun apprenne à connaître l'autre, que les enseignants et les AESH comprennent ce qui se vit dans les familles, pourquoi pas en lisant Ombre et Lumière, hein, puisqu'on est une revue qui s'intéresse beaucoup au vécu des familles, et puis que les familles aussi s'intéressent à ce qui est rendu possible par l'école, qu'il y ait une vraie connaissance mutuelle et un vrai dialogue. Je pense que c'est vraiment la clé pour que ça se passe bien sur le terrain au quotidien.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas de tous vos éclairages sur cette loi, et pardon aux auditeurs pour toutes les difficultés de liaison. C'est la preuve qu'on a tous besoin de vacances. Non, je plaisante. Merci beaucoup. À la technique, Jonathan Botello. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou par mail à contact@radioprésence.com.